parler du 7 octobre, bon, c'est par excellence une réalité du mal. Et je pense aussi, en vous écoutant, au texte du rabbin qui était dans le ghetto de Varsovie et dont j'ai traduit certains textes, il ne dit pas du tout que le mal est une illusion. Le mal qui souffre dans le ghetto, donc Rabbi Kalominus Kalman Shapiro, il ne dit pas du tout que le mal est une illusion. Mais c'est vrai qu'il essaye de continuer de donner un enseignement de Torah à ceux qui sont autour de lui, pour justement qu'il ne meure jamais sans parole de Torah, qui pour lui est donc la seule chose qu'il puisse leur donner. Mais, je veux dire, dans des conditions tellement atroces, on ne peut pas dire que c'est une illusion. Je veux dire, ça me semble, c'est pas vrai. Les gens souffrent dans leur chair, dans leur âme, d'une façon terrible. Alors, leur dire que c'est pas la fin des choses, et qu'il y a aussi une autre voie, une autre façon, et même dans ces conditions-là, d'essayer de trouver s'il n'y a pas, comme ça, un petit chemin qui les éclaire vers autre chose, comme le fait ce Rabbi Kalominus Shapiro, ça je comprends très très bien. Mais le mot illusion, je trouve, vis-à-vis de quelqu'un qui souffre, je peux le dire pour moi. Oh, ok, je dis ça pour moi, mais je ne peux pas le dire pour vous. C'est complètement insultant.
Mais je suis simplement d'accord avec vous. Je crois que c'est ça aussi.
C'est peut-être justement donc la grandeur aussi de Rabbi Kalominus Shapiro, hein, qui au milieu de qui a vécu donc qui a vécu et qui a péri pendant la Shoah, qui lorsqu'il se trouve au ghetto de Varsovie, tout ça, dit non, moi je ne peux pas, moi le Rabbi Chassidi qui connaît ces textes là, ce n'est pas ce que je peux dire. Je ne peux pas dire ça. Et oui, je vais parler du mal qui existe, mais en disant, oui, mais nous ne sommes pas comme ça. Oui, nous ne comprenons pas, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est justement sa grandeur, je veux dire. Là, c'est justement sa grandeur. Le fait qu'il ne va pas, à mon avis, je veux dire, qu'il ne va pas, donc, dans cette vision du Baal Shem Tov. Mais lorsqu'on n'est pas dans... Je veux dire, dans le texte, dans cette parabole, la parabole ne parle pas du mal. La parabole ne parle pas du mal. Il s'agit finalement donc de la forteresse, le trésor du roi. Elle parle d'un état qui est ni bien ni mal. Elle ne parle pas de souffrance.
Elle en parle quand même, justement, quand elle dit, dans la première génération, justement, le premier parabole, que de la même manière, sage en question accepte le bien qui lui arrive comme le mal, enfin comme ce qui... Et donc c'est quand même dit. Voilà, non, voilà, mais dans ce premier texte, puisque le deuxième renvoie au premier quand même, c'est cette position, disons, c'est pas de l'indifférence, mais cette position de plénitude de soi telle que tout ce qui arrive... Est un message divin, enfin, et quelque chose qui est à déchiffrer. Donc, on est toujours dans la plénitude. Et c'est cette force-là qui... Et je comprends très bien ce que vous dites, quand vous dites que c'est un texte qui donne de la force. En ce sens-là, oui. C'est-à-dire ne pas laisser son intégrité attaquer et être toujours conscient de cette présence, même dans les choses les plus graves qui peuvent arriver. Donc, la question du mal, effectivement, est posée ainsi. Cela dit... c'est quand même un problème de parler d'une illusion, en effet, parce que effectivement le mal existe bien, et comment on traverse, et c'est là, ça revient à la question de tout à l'heure, comment on traverse cette épreuve, comment on fait, quel est le passage, quel est le chemin qui permet de passer de cette phase à l'autre.
Je pense que justement c'est la grandeur de la tradition à la fois kabbaliste et chassidique de donner au mal une réalité. C'est la philosophie qui a défini le mal comme un manque, comme une absence, etc. Et donc, je pense qu'au contraire, dans cette tradition-là, il y a une consistance au mal.
C'est-à-dire que vous voulez dire quoi par rapport à
par exemple, dans la philosophie...
La consistance du mal est là que vous...
par exemple, dans la philosophie, prenons par exemple Maïmonide, pour prendre un penseur que vous connaissez tous, lorsqu'il parle du mal, il en parle de façon très, très, très calme. C'est un manque, ça n'a pas vraiment de réalité, c'est parce que nous ne comprenons pas bien, etc., etc. Donc, ça, et ça c'est un langage de la philosophie. La philosophie a rarement pris le mal au sérieux. Et ce que j'ai vu dans la Chassidoute, aussi chez Lévinas, qui n'était pas un racine pourtant, mais Lévinas donne une réalité concrète au mal. Le mal, c'est quelque chose qui a une véritable consistance, une véritable réalité. C'est pas du tout un manque, un défaut. Et c'est non, pas du tout. Et ça, je pense que c'est très important de dire. C'est pour ça que le mot illusion me semble un problème. C'est plutôt la philosophie qui dirait que c'est une illusion.
Si, à la fin, c'est l'illusion de la distance. Dans tous les livres de Hachim, et même dans le Moray Moukrim, quand on cite cette parabole du château, on parle souvent de la distance, on ne parle pas forcément du cosmos. On parle de la distance qui va séparer celui qui est derrière les murailles et celui qui est au centre des murailles. Donc en fait, l'illusion, elle n'est pas l'illusion sur un cosmos. Je n'ai pas l'impression que c'est une illusion sur un cosmos entier ou sur le monde en général. C'est une illusion sur la distance qui sépare celui qui demande d'être visité et celui qui l'espère peut-être. Justement, et là, j'ai l'impression aussi que vous êtes, sans vouloir, que c'est un peu rapide de partir directement sur que les pièces d'or, c'est les mitzvot. Un peu rapide dans le sens où la demande du roi, en fait, cette demande de rencontre, ou même, comme vous avez dit, avec la mitzvah de cette rencontre, c'est la demande de venir le voir. Donc, en fait, c'est-à-dire, si je reste que dans ce texte, c'est-à-dire, je ne vais pas plus loin sur, en général, sur les mitzvot et la métaphysique, le lien entre les deux, je parle juste sur ce texte, la seule demande que le roi a, c'est de venir le voir. Il ne demande pas qu'on vienne chercher les pièces d'or. Les pièces d'or, il les met à disposition. Il a jamais demandé qu'il y ait un contact entre les hommes et ces pièces d'or. Et même, à part ça, on parle à Adol. Et à part ça, une autre remarque, c'est que les pièces d'or non plus, les pièces d'or, on n'a jamais dit que c'était une illusion. On dit que ce Chacham Gadol, il est là en train de faire une illusion des chomot, de la distance. Mais les pièces d'or, elles n'ont jamais été décrites dans les illusions. Donc, j'ai l'impression que vous êtes allé quand même un peu vite dans la relation entre les mitzvot et en fait le centre qui est Dieu. Non ? À part ça, Dieu aussi, à part ça, il ne rencontre même pas le roi à la fin, il faut aussi souligner.
Il me semble, si on voudrait, lorsque la philosophie utilise
un machal, lorsque la philosophie donc, utilise une parabole, c'est pour essayer de concrétiser quelque chose qui est donc abstrait. Et donc, le machal, en l'occurrence, cette parabole a une portée, disons, didactique ou pédagogique. Okay ? S'il s'agissait simplement d'insister sur si l'idée était de parler donc de la distance entre Dieu et l'homme qui est liée par rapport au savoir. Alors effectivement, on pourrait créer donc une parabole qui nous parlerait donc d'un roi qui se trouve dans sa forteresse avec beaucoup de murailles et il a dit aux gens donc de venir et les gens arrivent et ils n'arrivent pas à trouver par où rentrer jusqu'à ce que finalement effectivement il y a quelqu'un qui a trouvé le chemin de la philosophie ou quelque chose d'autre qui lui permet de rentrer. On n'a pas besoin ces petits détails, de cette histoire avec les pièges de venir, etc. Donc, il me semble au contraire que justement, elles sont, je veux dire, c'est fondamental. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement, c'est une interprétation avec, beaucoup de. Oui.
Donc, merci pour cette présentation. Donc, j'avais deux remarques, mais il m'en reste.
On va continuer, mais pour
la première moitié. Bon, donc j'avais deux remarques, mais il m'en reste plus qu'une, puisque j'ai un camarade qui m'a devancé, en particulier sur qu'est-ce qui permet de dire que les pièces d'or, peu importe le sens qu'on leur donne, étaient elles-mêmes une illusion. Parce que, enfin, dans le texte, c'est Shenchum Mechitsa Mafsik Beno Leven Aviv, qui accole. C'est quoi ce accole? C'est les Mechitsot dont on vient de parler.
Eh bien, c'est tout.
Non, mais alors dans ce cas-là, on n'aurait pas parlé des Mechitsa, qui Enchum Mechitsa, je veux dire, c'est dans la proposition. Mais ceci étant, la deuxième remarque, peut-être d'un autre ordre. Je ne suis pas certain qu'il y ait une opposition entre ce qui se joue ici dans ce machal et la réflexion du Rav Shapiro dans dans le ghetto. Et je dirais même, je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport entre ce qui se passe ici et ce qui s'est passé pour les étudiantes un peu très choquées après le 7 octobre. Je dirais même, si on va encore plus loin, que pour ce point-là précisément qui est abordé ici, peut-être même que le Rambam sera d'accord. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut distinguer précisément ici deux types de mal. C'est-à-dire le mal qui arrive en tant que Nisayon, on dirait l'aléa. Enfin, on pourrait même dire le Nisayon qui semble relever de l'aléa. Où là, effectivement, il peut y avoir un rapport à cet aléa qui est de se dire que finalement, le fait que ça m'atteigne, c'est une illusion, etc. Puis, c'est Meito Itbarach, etc. Et le mal qui vient d'une autre personne qui a exercé son libre arbitre. Je ne suis pas sûr que dans le cas d'une autre personne qui a exercé son libre arbitre et qui a décidé de me blesser, je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, je peux dire effectivement, ça vient Meito Itbarach, etc. Après, je peux dire effectivement, j'ai peut-être moi les ressources pour surmonter ça. Mais je crois que ce qui se joue ici, les méchitsot dont on parle des méchitsot que le roi a placés, pas que les autres individus autour de moi ont placés. C'est pour ça que je suis, dans le cas du rabbi de Shapiro, merci. Effectivement, lui là-bas, quand il est dans le ghetto, le mal qu'il ressent, c'est un mal qui est donné par des gens qui les ont parqués dans ce ghetto, qui les empêchent de se nourrir correctement, etc. C'est pas le mal qui a la même nature que le mal. Alors, illusoire au sens du Midrash ici. Vous êtes d'accord ou
vous faites... Ça vient d'une volonté, ce mal, dans le ghetto.
Exactement. On se rejoint tout à fait. Et ce n'est pas le mal qui pourrait, ici, dans le cas de ce Midrash, être symbolisé par les murailles qui ont été placées par le roi qui nous demande de le rejoindre. Voilà.
Une observation, ce qui me frappe dans cette question des murailles et du rendez-vous avec le fait qu'on arrive à atteindre le roi,
c'est que rien n'est dit sur cette rencontre. Par exemple, on peut imaginer la même scène dans la mystique musulmane ou la mystique chrétienne, et on aurait une illumination, une révélation. Or là, rien n'est dit. La seule chose qu'on découvre, c'est que quand on se retourne, c'est une illusion. Justement, le mot illusion. La seule chose, c'est le changement de rapport au monde qui intervient. Quand on sait qu'on a rencontré. Voilà, on sait qu'on a rencontré.
On n'est pas dans l'éthique.
Voilà.
On est dans les degrés de connaissance qui sont liés par rapport à.
Donc, par rapport. Voilà, par rapport à votre question, on sait qu'on l'a rencontré, on ne sait pas le chemin, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on l'a rencontré quand le monde apparaît comme une illusion, en somme, comme une chose qui n'a pas de poids, en somme.
Parce que là, on ne parle pas du tout de moyens, c'est-à-dire de façon d'être pour approcher. On parle donc, pourquoi alors il y a une certaine opposition entre la façon d'être et d'arriver, ou de progresser, ou de... peut-être que c'était ça qui était choquant dans l'idée de l'illusion de la mitzvah, parce qu'à ce moment-là, elle n'est sur aucune réalité de ce qu'on ferait. Alors, autrement dit, est-ce que ça...
C'est une réalité véridique.
Véridique. De toute façon, véridique. Alors là, véridique, a fortiori. C'est-à-dire que... Mais puisque là, on ne sait pas. Mais est-ce que vous pourriez juste dire quelles seraient les différences entre une vision minnagidique, j'allais dire, du monde, de cette progression, de ce derrière vers Hachem?
La réponse est très claire. Non, sincèrement, je veux dire, je ne sais pas comme ça. Mais je crois que, d'après votre question, on se rend compte peut-être de l'enjeu. Comment il s'agit de questions fondamentales. Ce sont des questions fondamentales pour un juif qui fait les mitzvot. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui nous semble tout simple. Et pourtant, non, c'est tellement compliqué. Je voudrais, si on peut continuer, donc aborder le troisième texte qui nous rapporte, comment dirais-je, au quotidien,
qui nous rapporte au quotidien et qui nous rapporte, qui nous rapproche du quotidien, qui nous rapproche de l'individu. C'est un texte de Rabbi Nachman, mais juste une petite parenthèse avant, j'ai oublié, excusez-moi. Lorsque j'étais dans la ville de Mejibosh, donc la ville du Baal Shem Tov, la synagogue du Baal Shem Tov, la synagogue où le Baal Shem Tov priait, était reconstituée d'après des cartes exactement et des photos, comme c'est, pas des photos du XVIIIe siècle, mais des photos du début du XXe siècle, exactement comme c'était, le même bois, la même organisation interne, etc. Et tout. Et je me rappelle, dans cette synagogue, comme ça, où il y a la place du Baal Shem Tov sur le côté, et puis il y a une petite fenêtre sur le côté, je me suis dit, ben, il fait chaud de temps en temps, n'est-ce pas? On devait ouvrir la fenêtre. Lorsque le Baal Shem Tov, qui était assis là, lorsqu'il priait la Amida, il était en face de la fenêtre ouverte, qu'est-ce qu'il voyait? Alors regardons ce qu'il pouvait voir. Et j'étais tellement, tellement étonné, en ouvrant cette petite fenêtre comme ça, de voir en face de moi la forteresse de Mejibosh. Puisque à Mejibosh, oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une ville importante. Il y a une forteresse à l'entrée qui a été construite par les Turcs. Ce n'est pas un palais, ce n'est pas le palais du roi, mais c'est vraiment une forteresse avec à l'intérieur, oui, l'endroit qui était pour le roi, mais avec des gardes comme ça, et des donjons, et des tours, et un pont-levis, etc., etc. Et c'était ça. Alors évidemment, je ne veux pas dire que c'est la forteresse qui se trouve dans l'histoire, c'est l'histoire qui est dans la forteresse. Je veux dire comment, en fait, pour nous, souvent, dans certaines histoires comme ça, c'est dit qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui vient d'un autre monde et qui nous rapporte peut-être aussi des histoires d'enfance, alors que pour eux, d'un certain côté, ça fait partie de la réalité. Mais encore une fois, qu'est-ce qui fait partie de la réalité? Utiliser peut-être cette partie de la réalité pour illustrer le fait que cette réalité n'est pas vraiment une réalité. Je crois que c'est les deux dimensions, c'est jouer avec ces deux dimensions de réalité réelle, de véridicité, mais ça, c'est une petite parenthèse que je ne défendrai pas s'il le faut. Retournons, regardons donc, si vous voulez bien, le troisième texte de Chiffré Aran. Il s'agit donc de l'éloge du Ran. Le Ran, c'est Rabbi Nachman. Il s'agit du petit-fils et arrière-petit-fils. Des deux côtés, il était lié au Baal Shem Tov, par son père et par sa mère. Donc il est petit-fils et arrière-petit-fils. Le fameux Rabbi Nachman, dont, encore une fois, on connaît peut-être aussi beaucoup à travers les chassidim de Breslav, tels qu'on les voit aujourd'hui. Les chassidim qui chantent, qui dansent, qui aiment beaucoup cette phrase de « Eni ush ba'olam klal, il n'y a pas de désespoir, mitzvah gdola liot besimcha, il faut toujours être samer, etc. » Alors c'est vrai qu'il y a de temps en temps des gens avec un petit clin d'œil qui disent « Mais pour crier tellement qu'il n'y a pas de désespoir, il faut vraiment croire au désespoir. Si tu ne crois pas au désespoir, si tu ne ressens pas le désespoir, ce n'est pas la peine de danser, de crier, il n'y a pas de désespoir. » Mais laissons ça de côté. Voyons un peu ce qui se passe dans ce livre, Chiffré Aran, c'est l'éloge du Ran. C'est un livre qui a donc a été écrit, Rabbi Nachman, contrairement au Baal Shem Tov, où on ne sait pas ce qu'il a écrit, en tout cas il n'a pas laissé d'écrire. Rabbi Nachman, oui, a écrit beaucoup de choses, a écrit des choses qu'il aurait sans doute brûlées. En tout cas, il aurait demandé à son élève, Rabbi Nathan, de lui décrire ses enseignements et certains enseignements qui sont dans le livre de Likutei Moharan, donc les Likutim, les écrits, les essais, disons, de Rabbi Nachman. Certains, donc dans la première partie, a été revu par Rabbi Nachman en vue de les publier. Là, il s'agit d'un autre livre qui s'appelle donc Chiffré Aran, l'éloge ou les éloges du Ran, que Rabbi Nathan, l'élève dévoué de Rabbi Nachman, a écrit sur son maître, en racontant sa vie, la vie de Rabbi Nachman.
C'est quelle période, ça? C'est à peu près quand, ce que vous
Rabbi Nachman est né, je crois, en 1770, c'est-à-dire quelque chose comme 10 ans, 12 ans après le Baal Shem Tov, d'accord, n'est-ce pas? Et donc, ce livre est...
Il est mort à 39,
je crois, oui, 39. Donc, okay, 1820 ou quelque chose comme ça. Et donc ça, il s'agit du cinquième chapitre. Enfin, ce n'est pas un chapitre, c'est un paragraphe. Donc, nous parlons de Rabbi Nachman, l'enfant.
C'est quand même une chose qui m'a frappé. Je n'avais jamais fait le lien. Mais vous avez vu que la sphère géographique dans laquelle il se trouvait, bien que ce soit en Europe de l'Est, c'est une sphère qui dépend du monde musulman, c'est-à-dire de l'Empire ottoman.
Et qui ne dépend plus à cette époque.
Ah bon?
C'est l'Ukraine.
Pardon? C'est l'Ukraine actuelle? Oui. Oui, mais
c'est
ça. Mais ça a fait partie du monde musulman quand même pendant un temps, non? Ça explique certaines influences. Non, non, d'influence de Rabbanim Sepharad, c'est-à-dire qu'il y avait des écrits de... Enfin, moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'entendre qu'il y avait des liens, même des liens épistolaires.
Un lien, par exemple, qui est très net entre la Chassidoute et le monde des Rabbanim Sepharad, c'est par rapport au
Or Haïm.
Oui, oui, bien sûr.
Donc je ne crois pas que c'est passé par à travers les musulmans, c'est passé par un autre chemin en tout cas du Maroc.
Est-ce qu'ils connaissaient Bayan Pakuda? Parce que dans le premier texte,
ça ressemble, oui, je suppose que oui.
Il y a une idée semblable chez Bayan Pakuda.
Oui, oui, je suppose.
Que tout nous soit égal.
Oui. Et donc nous sommes donc chiffrés à Aran, le cinquième paragraphe, Hey. Qui nous parle donc de Rabbi Nachman, enfant. Enfant, c'est-à-dire à l'âge de quelque chose comme 8, 10 ans, avant la bar mitzvah, d'accord? Puisque d'après les autres paragraphes, c'est après la bar mitzvah. Et voilà ce qu'il nous raconte. Aya ragil, la tril bechol pam mechadash. Il avait l'habitude de commencer, la tril, de commencer, bechol pam, chaque fois, mechadash, à nouveau. Est-ce qu'on peut commencer chaque fois à nouveau? Dehaïnu, expliquons, c'est-à-dire... lorsqu'il s'éloignait du niveau spirituel qu'il avait de temps en temps, il ne désespérait pas, à cause de ça, le fait de s'éloigner, de tomber même, tomber dans le sens figuré, mais c'est le mot en hébreu, nafal, tomber de ce niveau spirituel. Rakamar, mais il disait, shiatrin mechadash, eh bien on va recommencer. Comme si il n'avait pas encore commencé de rentrer donc dans le travail, dans l'avodat Hashem. Rak ata, mais uniquement maintenant, ou matril mechadash. Il commence à nouveau. Vechen b'chol pam ou pam. Et c'est ce qui s'est passé chaque fois. Tamid haya ragil. L'atril mechadash. Je ne sais pas si vous sentez le clin d'œil qu'il y a là derrière. Tamid, il avait toujours l'habitude de recommencer à nouveau. Vayalo kama atralot beyom echad. Là, je ne crois pas que c'est un clin d'œil, mais c'est... Non, mais c'est... Il lui arrivait cet état donc, de recommencer à nouveau, ça arrivait des fois plusieurs fois beyom echad, par jour. Chez Gambeyom Echad, puisque même une fois, même de temps en temps, dans une journée, l'ifamim nafal me avodato. Il lui arrivait de tomber, de s'éloigner. Vayam atril mechadash. Vechen kama pamim beyom echad. Et c'est, il recommençait donc à nouveau plusieurs fois par jour. C'est raconté de façon tout simple, mais c'est difficile à s'identifier. C'est difficile à comprendre. C'est une illusion. C'est une illusion. C'est un jeu. C'est sérieux. Comment est-ce qu'on peut recommencer à nouveau plusieurs fois par jour?
Je comprends très bien. Je ne sais pas du tout ce niveau-là, mais je comprends très bien. Quand j'ai quelque chose à écrire et que je dois recommencer plusieurs fois à peindre et que j'y arrive pas, ou que j'y arrive mais que je recommence, je découvre toujours quelque chose de nouveau. Parce que
c'est intéressant que vous, l'exemple que vous employez est donc lié par rapport à la création, à créer quelque chose. Là, il s'agit de avoda, il s'agit de son travail, le travail de mitzvot. À première vue, il s'agirait de répéter à nouveau, de refaire à nouveau pas quelque chose de différent. Et pourtant, oui, ça doit être quelque chose de différent, puisque en fait, il s'est éloigné de du niveau spirituel dans lequel il était et il reprend à nouveau. Combien de force il faut pour vraiment reprendre à nouveau? Deuxième question, combien d'authenticité il faut pour vraiment reprendre à nouveau? En quoi ce fait de reprendre à nouveau, s'agit-il pas simplement d'une façade, ou pas simplement d'un état d'âme, ou pas simplement d'un faire-semblant, mais il y a vraiment une authenticité derrière. Et si c'est vraiment une position authentique, eh bien, quelle force il y a. Quelle force il y a derrière ça. Il s'agit d'un enfant. Il raconte, il disait, c'était autour de 10 ans. Peut-être que d'un côté, c'est ce qui nous semble difficile, que ce soit un enfant, et peut-être qu'au contraire, c'est ce, à nous, peut-être adultes, qui avons tellement de perspectives, tellement d'expériences, il nous semble peut-être tellement donc difficile de recommencer à nouveau, de nous reprendre à nouveau. Et peut-être que oui, pour cet enfant, c'est peut-être plus facile. Il fait ça de façon plus naturelle, est-ce que serait-ce le mot ? Instinctive, je ne crois pas. Il ne s'agit pas de l'instinct, il s'agit d'une décision. Il s'agit donc d'une décision interne. Mais tout en est-il que l'image que nous avons en face de nous est d'un enfant qui vit son enfance, donc, de façon très sévère. Très sévère par rapport à lui-même. Premièrement, de se rendre compte qu'il y a donc différentes madrigotes, qu'il y a différents niveaux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement, encore une fois, du niveau de l'action, qu'est-ce que je fais, quels sont les mitzvot que je fais, mais quelle est la madriga, quel est le niveau spirituel que j'ai derrière ces rires. La madriga est peut-être liée à la kavana, à l'intention qu'il y a derrière la mitzvah. Généralement, ce sont des expériences réservées au monde adulte, pas tellement aux enfants, peut-être à l'adolescence, peut-être avec des crises de mysticisme ou pas, ou des crises religieuses peut-être, mais tout en est-il qu'il y a donc beaucoup de force derrière, beaucoup de volonté derrière. Et il s'agit donc d'un... Il me semblerait que... C'est pour ça que je voulais l'amener dans cette vision, donc dans cette réflexion par rapport aux autres textes, qu'il s'agit, oui, d'une personne qui se regarde intérieurement, qui sans arrêt donc se remet en question, ou qui ne s'occupe pas, ne regarde pas les autres, ne regarde pas quel est le niveau spirituel des autres, mais vraiment est concentré par rapport à elle-même, par rapport à lui, et par rapport à la Avodat Hashem, par rapport à sa façon donc de se comporter devant Dieu, par rapport à sa façon d'accomplir les mitzvot. Et c'est quelque chose qui me semblait étonnant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Normalement, on dirait qu'il a du mal à se concentrer. On pourrait dire ça. Mais dans le texte,
il a du mal à se concentrer sur...
Se concentrer sur son sujet, donc il recommence à chaque fois, il ne peut pas se concentrer. Mais c'est exactement l'inverse que nous dit ce texte. Ce texte, ce qu'on sent dans l'écriture, enfin dans le rythme du texte, c'est que c'est un rituel pour se concentrer, justement. C'est un rituel pour... capter de l'inspiration, capter quelque chose que lui seul peut sentir. Et tant qu'il ne l'a pas capté, il recommence. On a l'impression que c'est un peu quelque chose comme ça.
La difficulté avec le rituel, c'est lorsqu'il est vécu comme un rituel.
Voilà, on nous parle
d'habitude quand même. Hein.
Oui, justement. c'est ça le phénomène que j'ai dit tout à l'heure. C'est d'avoir l'habitude, c'est un rituel, mais c'est un rituel d'authenticité. C'est un rituel de concentration.
Est-ce que c'est pas un rapport aussi, il y a quelque chose par rapport à la prière.
Pourquoi d'essayer à nouveau.
Ouais, c'est-à-dire il y a quelque chose dans l'attitude de par rapport à l'Amida ou ce sont les mêmes mots et il y a quand même une façon d'être différent chaque jour pour appréhender ça. Il y a comme un.
Une façon d'être différent chaque jour. Il y a un idéal.
Mais on est différent chaque jour. Donc et pourtant ce sont les mêmes mots. Donc on est quand même face à quelque chose où, de nouveau, et on s'éloigne parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, et on s'énerve, et on revient, et on... Je ne sais pas, c'est peut-être...
Ce sont deux images contraires, ce sont deux forces contraires qui sont à l'intérieur. D'un côté, donc, la force qui lui cherche quelque chose de nouveau, quelque chose de la Kirmechadash, de recommencer à nouveau, de sentir le début... Ok, avec le début, avec la force qu'il y a dans le début, peut-être même l'innocence qu'il y a dans le début, le manque d'expérience qu'il y a dans le début. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à la tefila, par rapport au fait de prier à nouveau et de reprier encore une fois avec le même texte. Mais là, il s'agirait donc de quoi ? Il s'agirait donc, au contraire, de sentir que c'est un autre texte. Il ne s'agit pas simplement de quelle est l'intention que je vais donner dans cette prière que je connais par cœur, mais il s'agit de la découvrir comme si c'était la première fois.
Oui.
Comme si c'était la première fois.
Ce n'est pas l'intention, c'est justement l'état qui fait que
les mots n'ont pas la même, le même signification aujourd'hui qu'hier. C'était moi une pensée que j'avais, hein, mais je ne vois pas où on parle. J'ai peut-être raté quelque chose, mais je ne vois pas où on parle d'enfant.
Il s'agit du récit que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, rapporte sur son maître. Et je veux dire, d'après le contexte, le texte précédent, le texte d'après, etc., on voit que c'est lorsqu'il était enfant, avant la bar mitzvah. Avant la bar mitzvah. Ok.
Peut-être juste un point. Peut-être que ce qui est remarquable, c'était pas seulement qu'il recommence, c'est qu'il recommence sur ces sujets-là. Je veux dire, un enfant qui recommence, l'instinct de recommencer existe. C'est-à-dire, quand on prend... ça, c'est un truc que j'avais remarqué. Donc, un enfant, par exemple, qui est assez jeune, qui apprend à parler, donc vers les 2 ans, et c'est un mouvement que j'ai vu plusieurs fois, qu'il amène sa pile de jouets ou ce qu'il a sous les yeux, puis jouet après jouet ou plante après plante, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Alors, on dit un par un, et il répète. Quand il a fini la pile... Il s'arrête pas, on recommence. Il reprend la pile et on y va mot après mot. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et on lui dit, bon, qu'est-ce que c'est ça? Ou selon son évolution, ça peut être c'est quoi ça? Ou comment ça s'appelle? Ou comment ça s'appelle? Bon. Mais tout ça pour dire que il peut y avoir un instinct de recommencement. Mais ce que je trouve, enfin, je pense que ce sur quoi le Rabbi Nathan insiste à propos de son maître, c'est que en tant qu'enfant, il recommençait, mais y compris sur des choses, si Madrigato, donc je pense qu'il parle du niveau spirituel, oui. C'est, il recommençait même sur des choses sur lesquelles les gens n'ont pas l'habitude de recommencer. C'est un peu comme, vous voyez, l'enfant qu'on prépare à la bar mitzvah, et puis bon, on lui apprend à lire dans le CFR. Il lit, mais si au bout de la 3e fois, il n'a pas déjà acquis, on sent qu'il désespère un peu. Ici, ce qui est intéressant, c'est pas seulement qu'il ait la volonté de recommencer, c'est qu'il ait la volonté de recommencer sur ces sujets-là. C'était juste une remarque. Okay. Comme ça.
C'est intéressant que dans ce petit tour de table que nous venons de faire là-dessus, nous insistons moi aussi également, personnellement, sur le fait de recommencer à nouveau. On a complètement laissé de côté le fait qu'il tombait. qu'il tombait plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il tombait? Concrètement, qu'est-ce qui se passait? Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans son âme, chacun par rapport à lui-même, mais c'est aussi un sentiment très fort, je veux dire. Si nous cherchons l'authenticité dans le recommencer à nouveau, je veux dire, cette authenticité, elle dépend également de l'authenticité dans le vécu, du fait donc de tomber. Et encore une fois, je ne permettrai pas de reprendre donc l'exemple que vous avez donné tout à l'heure par rapport à la Shoah, par rapport à ce véritable mal. On est loin, on n'est pas du tout dans ça, évidemment, on n'est pas du tout dans ça. Mais on est, oui, dans quelque chose de très concret. Si le premier récit biographique que nous avons vu sur le Baal Shem Tov au début, s'il s'agissait donc de lui-même, lorsqu'il parlait comme ça de cette grande madriga, de celui qui est donc Shivit Hashem par rapport à d'autres, qui nous semblait quelque chose, un homme surhumain, inhumain, quelque chose, donc une très grande madriga, comme il dit, sans le Yetzer Hara, etc. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui a un Yetzer Hara, peu importe de quelle façon ça a pris. Il tombait même plusieurs fois par jour. Mais alors, s'il tombe plusieurs fois par jour, alors est-ce que la précédente fois où il avait essayé de reprendre à nouveau, c'était pas sérieux, c'était pas vrai. Je veux dire, nous avons tellement vécu, vous dites tout à l'heure, vous disiez que vous connaissez ça par rapport à la création, par rapport à la peinture ou par rapport à l'écriture. Mais dans notre parcours de vie, combien de fois nous avons senti ce sentiment où nous avons pris des bonnes résolutions et lorsque nous avons vu que nous n'arrivons pas à les mettre en pratique, nous nous disons, en fait, c'est-à-dire que je n'étais pas assez sérieux, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, je n'étais pas assez convaincu, je n'avais pas assez de motivation, etc., etc. On remet en question la première décision. Alors que là, non, il ne remet pas en question cette décision. Cette décision, elle était bonne. Le fait que je suis tombé après, ça ne veut pas dire qu'elle était mauvaise. Et le fait que je suis tombé, ça ne veut pas dire que je ne peux pas recommencer. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de volonté. C'est d'un côté, oui, effectivement, aussi un surhomme. Mais c'est un surhomme tellement, tellement, tellement différent. C'est un surhomme tel qu'il le parle, qui connaît en fait le yihush, on disait tout à l'heure, le désespoir, qui connaît le fait de tomber, mais qui dit non, je tombe et je me relève, je tombe et je me relève.
J'ai l'impression que ça parle du limoud aussi.
C'est-à-dire je ne sais pas, que... c'est non, possible, ça peut parler de tellement et de tellement de choses.
Bah, la façon de repartir, c'est quand même de penser que... Bah, moi, je l'entends comme vous, c'est-à-dire j'entends comme un combat avec le littérara, un combat permanent, et que la façon de surmonter ce combat-là, c'est de repartir avec le limon.
C'est peut-être ce qui donne la force, en l'occurrence.
Non, mais ça me rappelle... Alexandre, il peut aussi en parler. C'est un chiot qu'on avait avec le Rav Einstein, à partir d'un rave qui avait écrit sur un VAD, qui disait que quand il y avait une avéra, il ne fallait pas rester sur la avéra à se morfondre ou à même se culpabiliser. Il fallait passer à autre chose. Et la façon de passer à autre chose, c'était de repartir. Que le fait même d'être dans le limoud, il y a quelque chose de guérissable dans le limoud sur la avéra qu'on a fait. Mm-hmm.
Et... Peut-être que c'est la réponse mitnagdit, donc de lituanienne.
C'est peut-être à ce moment-là.
Dans son Sefer HaLachot, Rabbi Nachman, dans la première, il dit juste, quand même, pour se relever, et il faut trouver en soi-même, mais aussi en autrui, un nekudat atov. Si on ne trouve pas ce nekudat atov, on ne se relève pas. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait fondamental dans tout son propos. L'idée qu'il y a en nous un nekudat atov. Un point de bonté.
Un point positif.
Bonté.
C'est aussi dans l'écouté morale. Principal,
oui, et dans la première halakha,
c'est le respect bête autour du verset Azamra le Haï, je vous dis Azamra le Haï, je vais donc chanter et louer l'Elohai, je vais chanter, je vais louer donc mon Dieu,
Azamra l'Elohai, Beodi. Difficile à comprendre ce mot. Beodi, qu'est-ce que ça veut dire? Beodi, avec moi, tant que je le peux, on le traduit comme ça généralement. Et lui, il dit Beodi, dans le od, dit, qui se trouve chez moi. Le od, c'est quoi? C'est encore un peu. Dans le petit quelque chose qui est en moi. Le petit quelque chose qui est en moi, il a assez de force pour me permettre d'Azamra l'Eloi Beodi. Donc, c'est rechercher la Nekuda.
Qui est en nous et qui permet justement de se
relever. Qui a un point de force. Oui, de bonté, de positif. Quelque chose qui est positif, qui a un point de force, qui a un point qui permet, oui,
mais,
effectivement.
Mais parfois, on a tout à fait perdu, on ne sait plus où il est.
On ne sait plus où il est.
Est-ce qu'on peut relier également donc, ce texte par rapport à ce que nous avons vu précédemment? Je veux dire, là, il s'agit, donc ça c'est plus par rapport à l'éthique, par rapport au travail donc, de l'homme, au travail du chassid. Sur quoi est-ce que ça repose, le fait que, oui, j'ai la force de reprendre à nouveau? Sur quoi se repose le fait qu'il y a cette nekuda tova, qu'il y a ce côté positif qui est en soi? Est-ce que c'est, il repose uniquement par rapport, oui, ben, chacun a des bonnes, un bon fond, finalement? Ou bien est-ce que c'est peut-être aussi par rapport donc, à ce... Par rapport à cette dimension de Dieu dans le monde qui fait que, n'oublions pas, tout le reste est Achezat Einaim. Donc, je tombe, oui, mais c'est Achezat Einaim. Finalement, ce qui reste, c'est l'ordre du roi qui nous a dit d'aller vers lui. Et j'irai, et je continuerai, et je tombe, et ça m'est difficile, et il y en a d'autres qui rebroussent le chemin et qui repartent. Et moi, je continue, malgré ces difficultés. Je crois qu'il s'agit évidemment d'une parchano, c'est-à-dire c'est une interprétation que je propose de voir les deux textes ensemble. Je ne dis pas que l'un dépend de l'autre. Je dis qu'il fait partie du même paysage, en tout cas. On peut le voir dans un même paysage, dans un même tableau.
Et, il y a un truc quand même dans le premier texte qui est difficile, hein, comme vous l'avez dit.
Lequel le premier?
Et quand même, c'est le fait que c'est ange, quoi. Le
fait qu'il n'y ait pas de Yetzer Hara du tout, ça nous enlève de toute réalité. Il y a, enfin, en tout cas, une réalité humaine.
Il s'agit, je crois,
puisque c'est ontologique, c'est difficile de réfléchir en dehors de toute ontologie.
Oui, il me semble que c'est un mot qu'on n'a pas encore employé, mais c'est peut-être la question du modèle. Je veux dire, est-ce que le rabbi tzaddik, en l'occurrence, donc dans la chassidoute,
est-il un modèle pour moi? Est-ce que je peux m'identifier à lui ou de telle façon? Il me semble que peu de gens peuvent s'identifier au premier texte, évidemment. Mais il me semble qu'on a plus de possibilités de sentir un sentiment d'identification. Pas tant différent par rapport à ce texte de Rabbi Nachman. Je veux dire, ça aussi, c'est pas évident. Ça aussi, c'est pas évident. Je veux dire, c'est tellement plus facile et plus courant de continuer et de ne pas reprendre à nouveau, de ne pas l'atril mechadash. Je l'ai signalé tout à l'heure, la biographie de Rabbi Nachman est une biographie qui est très complexe. C'est donc le petit-fils, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Il grandit dans le même village du Baal Shem Tov, dans la maison où a vécu le Baal Shem Tov, qui est décédé 10 ans avant sa naissance. Mais ce n'est pas simplement ses parents et donc ses grands-parents. Il y a également des cousins, il y a dans d'autres branches, donc, enfin d'autres cousins donc, par rapport à d'autres enfants du Baal Shem Tov, qui revendiquent le fait de continuer la pensée du rabbi du Baal Shem Tov. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui et moi? Est-ce que c'est nous? Est-ce que je suis différent? Est-ce que pas? C'est quelque chose de particulier, mais disons, sans rentrer dans la réflexion psychoanalytique, mais c'est comment sortir de cette image, comment grandir avec cette image du père, cette image du grand-père, comment affirmer, comment chercher donc son chemin, la tril mechadash, comment commencer vraiment en disant c'est moi maintenant, il ne s'agit pas d'être le petit-fils de l'arrière-petit-fils de celui dont on attend qu'il se comporte comme ci et qu'il dise ça et qu'il fasse ça. Je veux quelque chose de différent. Et en même temps, je veux dire, il est très influencé par ce Baal Shem Tov. Dans le même livre, il raconte, donc Rabbi Nachman raconte comment il allait la nuit prier sur la tombe du Baal Shem Tov. Il lui demandait qu'il l'aide, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'elle est priée la nuit, pas dans la journée? Pourquoi aller la nuit, pas dans la journée? Parce que dans la journée, il y a des gens, et la nuit, il n'y a pas de gens. La nuit, il n'y avait personne. Donc, c'était la possibilité d'être différent, mais de rechercher, de trouver donc quelque chose, donc de trouver son chemin particulier à travers le dans sa Avodat Hashem. Ce texte donc est peut-être un peu plus proche de nous, mais je crois que également, comme les textes précédemment que nous avons vus, il nous montre comment donc la pensée chassidique est une pensée qui s'intéresse tellement au monde intérieur de l'homme, qui parle tellement de l'expérience, qui est une expérience religieuse, pas forcément dans le sens de la pratique religieuse, mais également au niveau donc, du ressenti, et au niveau de tout ce qu'il y a derrière, au niveau de donner un sens à sa vie, tel que nous le voyons là également, la tril mechadash, etc. Et comment est-ce qu'on peut vivre ça dans le quotidien, quand on veut également s'occuper de tout ce qu'un peuple qui n'est pas en exil doit s'occuper? Comment est-ce qu'on peut avoir un regard tellement porté donc sur l'intérieur, sur l'effort de la vie spirituelle, lorsqu'également on doit s'occuper de la vie quotidienne et d'un peuple? C'est difficile. En tout cas, la chassidoute ne le fait pas. La chassidoute donc se concentre sur l'individu, propose une éthique de l'individu, qui est une éthique de l'individu, comme j'ai essayé de le démontrer, peut-être sans vous convaincre complètement, mais c'est très bien également, que cette éthique repose également donc sur une philosophie du monde, sur une ontologie, sur les questions de base par rapport à l'existence du monde. Le dernier texte sur lequel nous allons conclure ce limoud est un texte parmi des dizaines, des centaines, des milliers. Il n'a pas quelque chose de particulier. Il représente ce que les autres textes chassidiques également représentent, c'est-à-dire la façon qu'ont les rabbis chassidiques d'étudier la Torah lorsqu'ils veulent étudier la paracha de la semaine et lorsqu'ils veulent parler de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est les 5 livres de Hamisha Chumshei Torah, c'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la création du monde, c'est du concret. Sans rentrer dans la question véridique, pas véridique, authenticité, etc. Mais il s'agit donc d'un concret. Et pour ces rabbis chassidiques, lorsqu'ils vont lire le texte de la Torah, Ils vont le lire en dehors du contexte spatial et temporel, en dehors du contexte que le texte lui-même raconte. Ils vont le ramener également par rapport à la vie personnelle, la vie individuelle, la vie religieuse, donc le parcours spirituel donc de l'individu. Donc, cette dracha de Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Melijansk, troisième génération de la Hassidouk, cette fois-ci nous sommes plus en Pologne qu'en Ukraine, dont son livre qui s'appelle Noam Elimelech, interroge le verset, le premier verset de Shemot. Ce verset dit « Ve'ele Shemot b'nei Israël, haba'im mitzraïma ». Voici les noms des Béné Israël, les enfants d'Israël, Habaim Mitzrayim, venant en Égypte, qui viennent en Égypte. Virgule. Dans le texte de la Torah, évidemment, ce n'est pas une virgule, mais c'est un des petits textes, un des petits signes qui représente les virgules. Et Yaakov, Ish Ubeto Baou. Avec Yaakov, et, ça veut dire avec, Ish Ubeto, un homme. Et sa maison, chacun et sa famille, Baou, sont venus au passé. Le verset, donc, semble d'abord un verset qu'on peut séparer donc en deux et qui reprend, qui dit une deuxième fois ce qui a été dit précédemment. Alors, ce sont les noms des enfants d'Israël venant en Égypte. Ils sont avec Yaakov, ok, c'est les enfants d'Israël. Israël, c'est le nom également de Yaakov. Et ils sont venus en Égypte, c'est répété donc deux fois. Mais la dracha du Noam Elimelech repose en fait sur deux différences. Une fois ils sont appelés Bnei Israël et une fois ils sont appelés Yaakov. Une fois ils sont appelés les enfants d'Israël et une fois Yaakov. Pour lui, pour le Noam Elimelech, il va dire qu'il s'agit de deux visions différentes. Celui qui est Yaakov n'est pas Israël, celui qui est Israël n'est pas Yaakov. Bien qu'encore une fois, au point de vue historique, c'est le même. Et ce sont les mêmes descendants. Deuxième différence, le Noam Elimelech voit. Et le mode du temps qui est utilisé dans le verset. Habaim Mitzrayma, qui viennent au présent, ou les enfants venant en Égypte au présent, par rapport à la suite du verset, Ishu Beto Baou, sont venus. Alors, ce texte, j'ai traduit uniquement l'idée principale qui est en dessous. Peut-être qu'on le voit en hébreu ou en français. Qu'est-ce qu'on le voit en hébreu, on le traduit en français. D'accord. Alors, il le dit comme ça. Et voilà ce qu'il dit. « Atzadik agadol, le grand tzadik, le véritable tzadik, atzadik agadol, hanitrazek, venityashen betzidko yamim rabim, celui qui est vraiment fort, celui qui vraiment se renforce, venityashen betzidko, et il devient vieux dans sa tzadikout, c'est-à-dire il est véritablement installé. » Encore une fois, la traduction d'en bas, c'est un résumé. Donc maintenant, je prends le texte hébreu et je le traduis de façon à ce que vous sentiez un peu plus les mots et l'authenticité du texte. Donc ce véritable tzadik, ce grand tzadik, le tzadik qui est installé dans ta tzidkout, yamim rabim, depuis de nombreux jours. Azai, alors, afshoset varim gdolim vetzdakot rabot, bien qu'il fasse de grandes choses et qu'il a beaucoup de mérite, afal pichen hu nitzol migadlut. Malgré cela, bien qu'il fasse de grandes choses, il réussit les hinatzel migadlut, de se sauver de l'orgueil, de la vanité. Qui adraba, même au contraire, ou motse be'atzmo chesronot, il voit sans arrêt des défauts en lui-même. Lomar shu mekatzer adayin be'avodato, il se dit qu'il utilise mekatzer, il utilise des raccourcis dans sa avodat Hashem. Vous metzer atzmo alze. Et il regrette de ça. Donc, on a donc le tableau en face de nous du véritable tzaddik, le grand tzaddik, le tzaddik qui est tzaddik depuis longtemps. C'est le tzaddik en fait qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas vaniteux, mais qui sans arrêt se dit je suis pas encore arrivé. Vehema, eux, ces tzaddikim là, amudei olam, sont vraiment les piliers du monde. Anikraim b'shem Israël. On peut vraiment les surnommer Israël. Israël, je vous rappelle, dans Bereshit, c'est donc le nom qui a été donné à Yaakov après qu'il a vaincu le combat avec l'ange. Avant, il était Yaakov, celui qui est venu par derrière en tenant le talon Ekev de Esav, de son frère Esav, et ensuite qui s'arrêta parce que tu as combattu et tu as vaincu, donc tu deviens donc Israël. Israël est donc le surnom que Rabbi Elimelech va donner aux véritables tzadikim. Otam tzadikim matrilim ba'avoda. Mais les nouveaux tzadikim, sur le point des, ces nouveaux riches, ces nouveaux tzadikim, amatrilim ba'avoda, qui commencent uniquement leur carrière spirituelle, avoda, chadashim mikarov ba'u, ce sont des nouveaux qui ont débarqué, qui viennent d'arriver. Biotam aussi, mais c'est d'avoir kdusha. Lorsqu'ils font quelque chose de kdusha, nitlahev bekirbam agadlut, ils se remplissent, ils s'émerveillent de leurs propres actions et rentrent en eux, donc se rentrent en eux-mêmes, donc il y a un sentiment de gadlut, d'importance. Vehem asovrim, et ils croient vraiment, shekvar igiu letachlit avoda amitit, qu'ils sont vraiment réussi à arriver à l'état idéal de leur travail spirituel. Ve'af al pishem tzadikim, bien que on peut les considérer comme tzadikim, ce sont des gens bien. Hema nirshalim be'avon agadlut. Ils fautent du péché de gadlut, de se sentir gadol, de se sentir important. Hema, eux, asher beshem Yaakov yechune. Eux, on va les surnommer Yaakov. C'est une autre madriga. Il y a les vrais tzadiks et il y a les nouveaux tzadiks. Et c'est ça, c'est à ça, à cet état-là que le verset fait allusion, Remez, lorsqu'il dit Bnei Israël abaim Mitzrayim. Lorsque le verset parle des enfants d'Israël, des Israël qui viennent en Égypte, il s'agit de qui? Chez Tzadikim Agdolim, les véritables Tzadikim. Hematamid Bemitzar. Eux, ils sont toujours Bemitzrayim, abaim, au présent, ils sont Bemitzrayim en Égypte. Mais c'est quoi l'Égypte? La racine du mot Égypte est également Mitzrayim, c'est également le mot Metzar. Metzar, c'est quelque chose d'étroit, c'est un passage qu'il est difficile à franchir. C'est également la douleur, la difficulté. Mina Metzar Karatia, de la difficulté, je t'appelle, Seigneur. L'Omar Shah Tzadikim Adolim, Hema Tamid Ba Metzar. Ils sont Tamid, ils sont toujours dans cette situation difficile. Vedaaga, ils réfléchissent, ils sont perturbés à la avoda par rapport à leur travail spirituel. L'Omar Shah Mekatsrim Adain. Parce qu'ils ont vraiment le sentiment qu'ils n'arrivent pas encore à arriver à ce qu'il faut faire. Beze, Hem Olchim Le Mala Tamid. Et c'est justement à cause de ça, à cause de ce regard critique qu'ils ont sur eux-mêmes, qu'ils vont continuer d'aller toujours tout droit au présent. Hem olchim, ils sont en chemin. Ils ne sont pas arrivés en Égypte. Eux, ils sont en chemin. C'est le début du verset. Et les Shemot, Bnei Israël, voici donc les Israël, Habaim Mitzrayim. C'est qui Israël? Ce sont ceux qui vont au présent, Mitzrayim, Bemetzar, dans la difficulté. Vezeu habaim, c'est pour ça que le verset parle du mot habaim au temps présent. Et Yaakov ishu betobahu, mais la suite du verset qui nous parle de Yaakov en parlant du passé, zelirmoz, il s'agit de faire allusion à l'otan asovrim, à ceux qu'ils croient, shekvar shilmo ba'avoda, qu'ils ont déjà payé leur dû par rapport à leur travail spirituel. Miblishum chesaron elam igia, et qu'il ne leur manque rien, ils sont déjà arrivés. Nous sommes arrivés, Baou, ils sont arrivés chez Loken Madrigat Haemet. Et ce n'est pas ça vraiment le véritable niveau. C'est faux tzadikim, c'est tzadikim qui sont des tzadikim, ce ne sont pas des faux tzadikim. Hein. Ils le disent, ils sont nikraim tzadikim, on peut les appeler tzadikim, mais c'est nouveau riche. C'est pas la même chose. Eux, ils croient qu'ils sont donc déjà arrivés. Donc nous retrouvons là l'idée que nous voyons tout à l'heure, donc de ce travail spirituel, intérieur, ce travail qui n'est pas par rapport à combien de mitzvot j'ai fait, mais ou d'après combien de chumrot j'ai fait, mais combien je travaille sur mon caractère, sur mes midot, sur donc mes mauvais côtés, et j'essaye toujours de continuer en autocritiquant et en cherchant donc à devenir, on va dire, un bon juif, c'est-à-dire de devenir pour lui un bon tzaddik, donc devenir un bon juif. Donc on a le, au niveau du thème, on a le même thème, mais qu'on a vu précédemment. Mais là, j'ai voulu apporter donc le texte pas par rapport au thème, mais par rapport à la drasha, par rapport à la façon dans laquelle le texte de la Torah est lu, puisqu'en fait il s'agit d'une lecture de la Torah qui lit la Torah mais complètement en dehors de son contexte tel que la Torah elle-même le raconte. Il s'agit d'une famille qui s'appelle Yaakov. Ils sont arrivés à tel endroit, à tel jour, et leur nom c'est tel et tel et tel, etc. Non, c'est une lecture différente des versets. C'est pour ça que je dis que ce texte fait partie de dizaines, de centaines, de milliers de drashot, d'enseignements qui se basent sur la paracha de la semaine, rapportés par différentes écoles chassidiques, où le point commun à tous est donc de comprendre le verset tout à fait en dehors du cadre spatio-temporel du verset. Merci. Voilà.
Par rapport justement, je pense que j'ai toujours tendance à rapporter à notre séminaire les enseignements des différents rabbins que nous recevons ou des chercheurs. Et si on l'adapte, disons, à la préoccupation que nous avons concernant les rapports entre Israël et la diaspora, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'en Israël, on est arrivé. Est-ce que la diaspora ne joue pas un peu le rôle, hein, ou tout au moins cet étranger en soi qu'on maintient, est-ce que ça ne joue pas ce rôle, justement, de cet effort pour continuer à avancer et pour une rencontre vers un niveau de spiritualité plus élevé.
Il y a de nos jours un renouveau en Israël dans des milieux qui ne sont pas chassidiques. Okay, dans des milieux qui ne sont pas chassidiques, ça peut être soit des milieux qui ne sont pas pratiquants, mais qui s'intéressent aux textes juifs, à la culture juive, etc., et qui apprécient justement donc pas seulement qui apprécie, mais je veux dire, mais dont l'approche des textes chassidiques par rapport à la vie de façon générale peut être donc une source d'enrichissement, et également dans le milieu d'Attila Omi, dans le milieu donc de la pensée du Rav Kook, tout à l'heure en disant l'ozo d'Arkeno, ce n'est pas notre chemin. Il y a là donc beaucoup, on appelle ça aussi une résurgence d'une nouvelle chassidim. Ils appellent ça entre autres chassidut Eret Israël, c'est la chassidut d'Eret Israël, qui se veut également donc être très lié par rapport à la terre d'Israël, ou revenir à la terre, avec tous les motifs, disons, sentimentaux, romantiques, qu'il y a derrière tout ça. J'ai entendu une fois donc d'un éducateur qui connaît bien ce genre de relation, m'a dit qu'il voyait ça de façon extrêmement dangereuse. Au point de vue éducatif, cette revivification de la chassidoute en Israël. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi, puisque à première vue, ces jeunes qui disent la chassidoute sont super souriants, très contents, avec leurs petites flûtes et leurs péotes, etc. Et cette personne m'a dit, n'oublions pas que la chassidoute s'est développée dans des conditions tellement différentes que ces conditions que ces jeunes juifs vivent maintenant, donc aujourd'hui, maintenant, en Eretz Israël. La chassidoute s'est développée donc pendant une période difficile au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue politique pour ces communautés juives donc d'Europe de l'Est, et qui ont trouvé sans doute un refuge dans cette spiritualité. Mais cette spiritualité, en même temps, leur expliquait de comprendre le fait que même si nous sommes ici, en dehors d'Israël, eh bien nous pouvons également, ici je dirais en Pologne en l'occurrence, nous pouvons également être dans la dimension d'Eretz Israël, si au point de vue spirituel, nous nous trouvons dans ce que nous appellerons Eretz Israël, de la même façon que là, l'Égypte est compris, non pas comme le premier exil, la première diaspora, donc de la famille de Yaakov, pas du peuple juif, mais de la famille en l'occurrence, l'Égypte est comprise non pas comme une terre au point de vue géographique, non pas comme une réalité au point de vue politique, social et économique, mais comme un état psychologique de sentir Metzar, de sentir cette difficulté, de se sentir à l'étroit, de se sentir dans un problème qui, pour le rabbi chassidique qui le parle, n'est pas lié à la réalité vraiment
de l'Égypte de telle ou telle façon, mais est liée à l'étymologie du mot Égypte, aux lettres du mot Égypte, au nom du mot Égypte. Ok, donc c'est d'un côté une invitation, oui, à voir, ok, alors ce n'est pas Israël, mais c'est également dehors d'Israël, c'est également dans la diaspora, mais en même temps, c'est peut-être dire prendre du recul par rapport à Eretz Israël, par rapport à la diaspora. C'est une des idées que Gershom Scholem et ses autres élèves également ont développé très tôt, ont beaucoup parlé, comme quoi pour la chassidut, le messianisme, la geoula, est en fait un messianisme individuel, pas dans le sens du messie individuel, mais une rédemption de l'individu. J'arriverai à ça. J'attends le Messie, pas j'attends la personne qui vient, ou pas j'attends l'époque qui vient, ou pas j'attends le changement politique qui va venir, mais j'aboutis à cette rédemption personnelle grâce à mon travail. Premièrement, grâce à mon travail, et deuxièmement, d'après l'explication du Baal Shem Tov, en répandant cette étude. En diffusant donc cet enseignement du Baal Shem Tov et de la Chassidut.
C'est que la référence, elle n'est pas au yogi, elle est en référence au Adam, c'est-à-dire à une racine beaucoup plus haute, en fait, beaucoup plus générative de l'humain, et par conséquent, c'est très ouvert sur... non seulement tous les juifs, mais tout le monde. Enfin, par la voie du chassidisme, on saute par-dessus l'histoire et ça ouvre, disons, à un travail d'élévation spirituelle qui est ouvert à tous, sans forcément une appartenance à un peuple.
Mm-hmm. Je réfléchis en me disant, Madame Chagrin, nous savons qu'à l'époque de. Au XVIIe siècle, de nombreux hébraïsants ont cherché, donc dans la Kabbale, de nombreux hébraïstes non-juifs ont cherché dans la Kabbale un savoir qui serait un savoir fondamental, premier, qui n'est pas lié uniquement à Israël, ou bien même à l'interprétation du christianisme, comme certains l'ont fait, mais qui serait par rapport à quelque chose d'une réponse humaine. Est-ce qu'il y a eu la même chose dans la Chassidoute ?
Le juif qui est concerné, et donc sa pratique des mitzvot, on demande pas. Mais il est vrai que Rabbi Nachman de Bratslav n'hésitait pas à parler il parle même à un moment donné, il dit ça serait bien que des chrétiens se convertissent. Par contre, l'inverse, ça serait horrible. Mais...
Je me demande, est-ce qu'il y a eu des chrétiens, est-ce qu'il y a des non-juifs qui se sont intéressés à la chassidoute, qui s'intéressent à la chassidoute?
Ça, je ne sais pas exactement. Mais...
De la même façon qu'ils sont intéressés à la Kabbalah.
Oui, ça je ne crois pas, non, ça je ne crois pas. Mais c'était pas tellement connu, en fait.
Non, mais maintenant, je
dis. C'est pas tellement connu. Même Lévinas, paix à son souvenir, il avait plein de préjugés sur la chassidoute, parce qu'il était mitnaged, et donc pour lui, c'était les danses, et c'était pas sérieux, quoi. C'était l'émotion. Mais. Non, mais je pense que quand même, quand les textes que je lis, ils s'adressent aux juifs.
Oui, les non-juifs peuvent se sentir également inspirés.
Ils peuvent se sentir inspirés, mais c'est vrai que les mitzvot sont quand même au cœur de tous ces écrits, et donc je ne sais pas ce qu'en pensent les non-juifs, mais...
Peut-être dans la littérature récente, peut-être. Je sais qu'il y a, surtout dans la racine de Lubavitch, aussi beaucoup d'écrits, plutôt dans un cadre racidique sur les fameuses œuvres de des Noirs. Ce serait intéressant de voir du côté non juif comment est-ce que ça a été reçu et si ça a pu être analysé comme l'ont pu être la Kabbale par l'élève du Yashar Mikandia, c'est son élève. Ou des choses similaires. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faudrait chercher, mais plus de façon plus récente.
Après, bon, il faut comprendre que discuter de Sheva Mitzvot Bnei Noach en plein ghetto entre deux pogroms, c'est un peu, c'est toujours difficile, quoi.
Je parle plus au niveau de l'éthique ou de la vision du monde, comme tout à l'heure. Je veux dire là, vous avez parlé donc de Baria Ibn Pakuda et de Chovot Alvavot, les devoirs du cœur, qui est un livre donc d'éthique du XIe siècle, n'est-ce pas, en Espagne musulmane, je sais pas comment. Ok, donc c'est un écrit comme André Chouraki qui a traduit, qui est une des premières traductions donc de Chovot Halavavot, de ce livre-là. Et en parenthèse, il écrit dans un autre livre, il a traduit ça pendant la guerre, pendant qu'il était dans le maquis. Et il disait que c'est ça qui lui donnait la force. C'est aussi très intéressant. Donc je veux dire, comme il le dit, donc c'est un texte qui peut parler également en dehors du peuple juif. C'est un texte, donc une éthique, un travail intérieur, spirituel, qui peut parler et qui a parlé également au monde, dans l'islam, avec beaucoup de ressemblances, et même dans le mysticisme chrétien au Moyen-Âge. La Kabbale également a donc intéressé les non-juifs, en cherchant quelque chose d'universel dedans. La philosophie, évidemment, est un espace de rencontre entre judaïsme et autre vision. Qu'en est-il de la chassidoute ? Est-ce que c'est vraiment...
Quand il y a eu des traductions du livre de Boubert, enfin les deux que vous avez cités tout à l'heure en introduction de votre exposé, ça a eu une certaine audience, mais c'est pas suffisant pour connaître...
Le chemin de l'homme, ça a été quand même...
Oui, c'est le chemin de l'homme, c'est vrai, vous avez raison. Oui.
Intéressé.
Oui.
Mais moi, je ne sais pas du tout. J'ai l'impression qu'on oppose peut-être un peu trop la racine de la communauté. C'est-à-dire que... qu'on les oppose un peu trop, c'est-à-dire que je pense
hein,
c'est une illusion qu'on les oppose.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas de muraille entre
eux. Oui, voilà, j'ai l'impression qu'en fait...
Mais c'est pas sûr qui est le père qui est le
fils. Quand vous avez cité tout à l'heure Nefesh HaChaim, entre Nefesh HaChaim et certains textes de Rassidut.
Oui.
Ouais.
Et Lubavitch aime beaucoup parler de ça, de cette, comment il a tranché la question du Tzimtzum de la même façon, etc. Bon, je ne sais pas exactement. Donc, nous n'en avons pas parlé. C'est intéressant que nous n'en avons pas parlé. C'est le chassidisme aujourd'hui. C'est comme tel que nous l'avons présenté dans la présentation de cette intervention. Donc le chassidisme tel qu'il est, tel que le sociologue le décrit, comme étant une communauté avec un mode de vie très particulier et dans un mode de vie, comment dirais-je, un mode de vie dont l'image qu'elle renvoie n'est pas par rapport à l'éthique, je ne veux pas dire que c'est le contraire, pas du tout, mais je veux dire, mais qui est beaucoup plus par rapport à quelque chose de visuel, de concret, de comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on parle,
c'est
comment est-ce qu'on marche, etc.
Cette vision, c'est rétrograde.
Oui, c'est
tout à fait différent.
Oui, c'est pour ça que je dis, on ne l'a pas abordé, c'est intéressant qu'on ne l'a pas abordé, qu'on a parlé de chassidoute sans parler de chassidisme moderne, mais...
Ça m'a effleuré tout à l'heure quand vous avez dit cette façon de ne pas se poser la question d'être comme le Bachem Tov, son petit-fils. Ou de réinventer lui son racidisme, j'allais dire, enfin sa racidoute, on a l'impression de l'extérieur que c'est pas ça du tout, puisqu'au contraire, on est dans une sorte de continuité extérieure, je veux dire, de tradition tellement ancrée par l'extérieur.
J'ai prié une fois dans une synagogue racidique à Tibériade en été. Et donc c'est une synagogue d'une communauté chassidique, j'ai oublié laquelle, qui est donc là-bas dans un des quartiers nord de Tibériade. Et j'ai pris leur livre de prière. J'aime bien voir les livres de prière pour voir pas seulement le texte de la prière, mais ce qui s'appelle le paratexte, tout ce qu'il y a autour. Quelles sont les indications, qu'est-ce qui se passe, comment les choses sont présentées. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je repars à aucun rapport avec la chassidoute, mais en soi. Donc, j'ai pris également, donc, ils ont un livre de prière. Je dis, voyons leur livre de prière. Donc, évidemment, les prières sont les mêmes prières. Mais, il y a des différences. Par exemple, après l'office du soir de Shabbat, il y a le kiddush, il y a ce qu'on récite avant, comme le chapitre de Shetraï, etc. Et puis, il y a donc les zmirot, les chants de Shabbat. Et là, dans le paratexte, dans les indications avant les chants de Shabbat, il y a indiqué dans ce livre, à quel moment est-ce qu'on va chanter le chant de Shabbat ? Et alors, à quel moment ? C'est après avoir mangé la soupe et avant de manger les poissons, on va chanter tel chant. Ensuite, on va manger le poisson et on va chanter ça. Et de la même façon, le matin, avec les œufs hachés, et nanana. Le menu fait partie du sidour, fait partie de l'ordre des prières, de la même façon que les chants font partie du côté liturgique. Chez les lituaniens, il n'y avait pas de mur de Shabbat. Ils disaient que ce n'est pas la peine de chanter Shabbat, c'est une perte de temps. Et chez les Lévinas également, au petit déjeuner à Legno, le cours de Shabbat, avant son cours de Shabbat, lorsque M. Lévinas, pour ses années 80, prenait le petit déjeuner avec les élèves, il n'y avait pas de chant non plus.
Alors justement, vous qui vivez en Israël, qu'est-ce que vous diriez par rapport,
par rapport au chant?
Non, je ne crois pas, mais qu'est-ce que vous diriez sur le chassidisme actuel?
Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dirais? Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que je dirais est superflu. Je veux dire, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai personnellement ressenti lorsque j'ai découvert ces sources premières de la chassidoute, de voir comment, en fait, l'image que j'avais, mais encore une fois, cette image d'enfant, d'adolescent à Paris dans ces années, une image extrêmement superficielle. Je veux dire, cette image extrêmement superficielle était quand même très loin des sources que l'image que ces textes des premières sources de la chassidique nous renvoient. Maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas le monde chassidique aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que eux-mêmes, est-ce qu'ils étudient ces textes-là, comment est-ce qu'ils étudient, comment est-ce qu'ils les interprètent. Je ne sais pas. Ah oui.
Juste, Elisabeth, elle avait une question depuis
mais non,
au moins une heure.
C'est pas une question dont j'aurais aimé aussi intervenir, mais simplement ce qui me frappe après l'étude de ces quatre textes, et c'est un mot que nous n'avons pas prononcé, c'est l'humilité. Il me semble que pour être dans ces postures, quelles qu'elles soient d'ailleurs, du plus grand au plus petit l'enfant, il faut beaucoup d'humilité. Et ça me fait penser d'ailleurs au bitoul du Sfat Emet. C'est une posture qu'il défend beaucoup. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça, parce que ça peut aider aussi dans des moments extrêmement difficiles que nous vivons aujourd'hui, à voir l'autre côté comme... Donc, en humilité, à le voir non pas comme quelque chose d'inatteignable ou d'éthéré ou d'inaccessible, mais comme un espoir possible de quelque chose qui nous échappe et qu'on ne comprendra de toute façon jamais. Voilà. Donc,
je crois que c'est très important ce que vous voulez rajouter par rapport à cette question d'humilité. Le bitoul, en l'occurrence, il ne s'agit pas donc de l'annulation. Annulation comme le bitoul chametz, mais contrairement au bitoul chametz qui est une annulation formelle en récitant la formule, bon, peut-être après avoir bien travaillé avant, d'accord, au point de vue physique évidemment, je veux dire, le bitoul dans la chassidoute, c'est un processus, et c'est un processus où qui est, je crois que c'est, vous avez raison de le traduire par l'humilité, du recherche d'humilité, donc et pas de négation. Et moi, je me rappelle avoir entendu cette formule par le Rav Adinstein Zaltz, et qui avait dit, en hébreu, il avait dit ça, c'était « itbatlut le kabbal » une minute, comment il avait dit ça, « bitul ayesh, l'ithavut ayesh ». Ok, il s'agit donc d'un certain, on va reprendre le terme quand même, d'annulation, il s'agit d'annuler le yesh, d'annuler l'existence, mais pour créer l'essence. Le kabbalah est à vout, est à vout ayesh. Il s'agit donc d'un processus, premièrement, et pas simplement donc d'une formulation. Oui, c'est un processus. Et c'est un processus qui, en même temps, donc oui, doit sans doute annuler quelque chose, faire disparaître quelque chose, mais en même temps, plus on ça fait remonter, donc ça crée quelque chose.
Le bitoul, c'est l'annulation du moi, parce que le moi, c'est une illusion. C'est ça qui est une illusion.
Et le moi est... disparaissant, alors justement quelque chose de véritable peut apparaître, qu'on l'appelle l'âme ou d'un autre nom, je ne sais pas, mais qui n'est pas le moi.
Si
J'appellerais la Mikuda Tova, peut-être.
Peut-être, oui.
Paradoxalement, puisqu'on parle du sujet de cette étude, c'était l'individu, enfin l'effort individuel, paradoxalement, c'est un effort individuel qui exalte, non pas le moi, mais qui exalte justement quelque chose du sujet de l'individu, tout en lui demandant d'annuler son moi. C'est deux mouvements inverses, parce que c'est un haut niveau d'écoute de soi-même. On le voit bien dans le travail du Rav Nachman, à 10 ans, qui s'aperçoit qu'il n'y est pas encore et qui recommence. Donc c'est vraiment un travail silencieux sur soi, très important. Et pour faire ce travail silencieux très important, effectivement, il faut faire silence sur le moi. Il y a un silence, plus que d'ailleurs une annulation. Peut-être c'est un silence. Il faut arriver à éteindre les bruits pour que ce silence soit entendu.
Je vous entends, mais les associations que j'ai sont justement parallèles, mais dans un domaine un peu différent, qui ne vont pas évoluer. Il me semble qu'il faut quand même. Un mot qu'on n'a pas dit, il me semble qu'il faudrait peut-être aussi mettre ce mot dans ce forum autour de cette table, c'est en fait l'expérience mystique. C'est-à-dire, nous avons vu ces sourdes chassidoutes avec, donc, qui parlent d'une approche éthique, d'un travail éthique, etc. J'ai essayé donc de voir quelle est la structure philosophique qu'il y a derrière par rapport à l'ontologie. Mais oui, il y a également une dimension mystique. Dans l'histoire de la forteresse, évidemment, et il y a une dimension mystique. La dimension mystique, c'est ce désir donc de se rapprocher de Dieu, la dvekout, peut-être une des définitions de la dvekout, en tout cas, donc de se rapprocher de Dieu. Et cet élan mystique, on le voit dans le mysticisme du soufisme, on le voit très fort également dans le mysticisme catholique, qui est un mysticisme qui demande, oui, d'arriver à une négation, mais cette négation, en même temps, elle permet l'illumination dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est les fameuses les nuits noires, de descendre, donc de se sentir éloigné, et tout d'un coup, donc, de se sentir éclairé. Et c'est dans le mysticisme chrétien, c'est l'oraison. C'est très souvent, il s'agit d'entendre quelque chose, d'entendre une voix, mais c'est une voix qui est intérieure. Et c'est comme ça que cet état mystique est vécu, comme entendre quelque chose. Voir, il y a une problématique dans la vision mystique, puisque le mysticisme parle de l'union entre ce qui est impossible d'unir, Dieu et l'homme. La vision, le fait de voir, c'est obligatoirement parler d'un objet et d'un sujet. Par contre, donc dans l'oraison, l'audition, le fait d'entendre et d'entendre une voix intérieure qui est d'un côté une voix intérieure mais qui n'est pas la voix de l'homme mais qui est une voix donc de Dieu qui se dévoile dans l'homme à l'intérieur donc de lui-même qui l'entend mais que les autres n'entendent pas, ça permet de surmonter l'obstacle du concret qu'il y a dans l'expérience visuelle. Et c'est donc une expérience qui est tout à fait différente, qui ressemble, qui est liée aussi par rapport au Bitul Hayesh, etc., etc., etc.
Mais là, on touche à des choses qui peuvent être...
Le mot, qui peut être...
Non,
qui peut être...
Très dangereux.
Ah, j'étais sûr de le mot.
Non, mais c'est forcément...
Mais oui. Et alors
Non, je ne parle pas à l'échelon individuel.
Nous, on y fait là, je...
Il ne faut pas avoir peur, dit Rabbi Nachman.
Non, attendez, je ne parle pas du tout en termes individuels. Je parle, c'est plus sociologique. Je veux dire, à ce moment-là, si on dit que c'est sociologique et que ce n'est pas important, mais je veux dire, quand ça, c'est considéré comme une position politique, alors là, on pourrait parler de la politique de l'exil. C'est-à-dire, quand ça fait politique et mouvement
c'est
politique...
C'est dangereux lorsqu'il s'agit de la société. C'est dangereux parce que c'est un message politique ou une réalité politique. Ouais.
Je m'en rappelle le Rav Shapira qui disait, je le rapporte, mais de quelqu'un qui me l'a dit, qui était avec lui en taxi, et il parlait, il voyait des trucs, et il dit, ils sont idolâtres purs. C'est-à-dire, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Quand ça forme un mouvement politique,
parlait d'idolâtre pur, Rav Moshe Chaperet, il parlait pas des non-religieux, hein. Il parlait des chassidiques. Ah non, il parlait de ça, il visait, c'est-à-dire qu'il devait percevoir, bon en fait je m'arrête là parce que je ne veux pas faire dire des propos que je ne connais pas, mais ça m'a fait associer ça.
Je trouve que c'est un procès injuste vis-à-vis des chassidim. Non, soyons clairs. C'est-à-dire, vu de l'extérieur, on peut dire voilà, c'est une affaire d'habits et de chants avant la soupe ou après la soupe. Je crois que c'est quand même plus profond que ça. C'est-à-dire, chez les chassidim, Breslev inclus sans hésiter, aussi beaucoup de Talmidei Chachamim, vraiment d'érudits en profondeur, en particulier Breslev. Enfin, moi, il y a quelqu'un que j'écoute beaucoup et qui lui-même, bon, c'est en halakha, d'ailleurs, c'est en halakha que j'ai fait sa connaissance. Et de temps en temps, on discute aussi de ça, et, enfin de choses qui ne relèvent pas directement de la halakha. Et penser que tout le chassidisme de nos jours se résume aux tiches, je trouve vraiment que c'est un procès, ou alors pire, au paganisme, je trouve vraiment que c'est un procès injuste vis-à-vis de ce que les érudits de ces chassidouillottes-là on peut apporter, en premier lieu desquels, je veux dire le Moharan lui-même. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez profond dans le chassidim de Breslev, mais même sur le rapport à la halakha, sur le rapport à l'étude, je trouve que s'arrêter au cas du chant avant ou après la soupe, c'est décider de voir dans le minag l'acte du minag sans voir ce qu'il y a derrière et les réflexions que ça peut susciter. Que ce soit par le contenu du minag lui-même ou par le fait de perpétuer ce minag-là. C'est ça que j'essaye de dire.
Parce que les gens qui adorent
l'acte
de tiche.
Hein. Bah oui,
là,
aussi, ouais.
Le shabbat, ouais. Le tiche, alors là, c'est grave. Mais, danser, chanter, manger des frites de fiche.
Oui, mais
ça fait partie de la joie de la Sivra.
Mais oui, non, mais je dis pas le contraire. Simplement, ce que je dis, c'est que ce serait faire un procès injuste de ne voir dans le tiche, de ne voir dans le tiche que le tiche. Non, c'est non, ça que j'essaye de dire.
Pas,
oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Comme dit la Rabbanitse aujourd'hui, avec les temps que nous vivons, être capable de mettre de la Sivra, c'est une mitzvah extraordinaire. C'est un niveau.
Moi, je vais mettre.
Et bien sûr,
le
quoi, ça n'a plus rien à voir.
Le niveau du monde.
Oui. Autrefois, il y avait toujours les Talmidei Chachamim, mais le peuple était vraiment à Maharet.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu.
Aujourd'hui, dans des très très élevés.
Le limoud sur la Gemara, sur la Halakha, pas sur les textes chassidiques.
Oui, sur le limoud.
Mais sur le chant, l'Inagdim. Le chant.
Oui, c'est vrai.
Non, parce que, par exemple, quand on étudiait les Pirkei Avot avec Laurent Bronstein, on étudiait, on se servait du Sfat Emet, aussi bien que Chaim de Vologine. Donc, ça se croise.
Et aujourd'hui, les Mitnagdim chantent. Mais c'est vrai aussi qu'il faut voir. Moi, la majorité. Je crois que si on.
Heureusement qu'il y a des fidèles à la
tradition. Et ils font des tiches aussi.
Je termine,
si on voit le contexte historique dans lequel est né le chassidisme, effectivement, c'était les Amaharet, c'était pour la majorité du peuple, et ça a eu la même fonction que le judaïsme libéral, peut-être aujourd'hui, parce que ça a fait rentrer, retourner dans le judaïsme, ou réinfuser de l'étude chez des personnes qui étaient loin de tout ça, qui n'avaient que des rites ou que des habitudes. Et donc l'étude est arrivée après la simcha et tout ce que disait. Il y avait tout ce côté de hitbodedout, d'aller dans les forêts, d'aller dans la nature aussi, prier, etc.
Je suis pas sûr que c'est vraiment ce qu'a fait le judaïsme.
Ah, on ne peut pas dire, on ne peut pas encore. Non, je ne sais pas, le judaïsme. Moi, je vois quand même des gens qui sont revenus au judaïsme par le...
Ils sont très libéral.
Non, vous en avez en face de vous. Je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure.
Oui.
Si je suis là, je dis toujours à tout le monde, c'est grâce à...
Voilà, voilà, voilà.
Moi, je reconnais aussi le cas de Copernic.
Non, mais c'est justement le bien, ça va
nous. Je ne leur connais pas le.
Juste une chose par rapport au Brexit dont vous avez parlé, je me demande si, par moment, l'organisation sociale, parce qu'on la met toujours de côté par rapport à une sorte d'idéal, de mystique, si cette organisation sociale, apparemment, je prends vraiment beaucoup de pincettes dans ce que je dis, et je vais le relier à quelque chose, si cette organisation sociale ne joue pas tout à fait le contraire de ce qui semblerait vouloir être atteint. Et je m'explique. Actuellement, il existe je mets les pieds exprès dans le plat. Hein. Il existe un documentaire sur la chassidoute à Yavnil, du Rav Moharosh. Voilà. Alors, je sais bien qu'on peut manipuler les gens avec un documentaire, des images, etc. Mais ce qui est dit, ce qui est montré, il doit y avoir une part de vrai. Mais c'est tellement énorme, je veux dire, c'est tellement énorme qu'on peut quand même se poser la question. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. C'est terrible. C'est terrible parce que les abus sexuels, il s'est passé très tard, là. Je suis tombé par hasard dessus. Depuis, j'ai fait des recherches. C'était sur France Télévisions, sur la 2.
Comment elle s'appelle ?
C'est Bretzlev, en fait.
Pas plus chez
Breslev
qu'ailleurs.
Non, mais. Je sais, ça me gêne même, hein, de trucs, mais je pense que.
Non, c'était.
Il ne
faut pas que l'arbre cache la forêt, Bernard.
Ah, mais on est d'accord, mais ça, on est d'accord. Mais bien sûr. L'arbre. Non, mais d'accord. Mais ça paraît quand même incroyable. Que à ce niveau-là, bien sûr, j'ai peut-être une vision idéalisée de l'homme. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler maintes fois avec Laura Bonchon. C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. C'est ce que il y a autant de choses ignobles qui peuvent se passer à la fois sur les femmes, sur les abus sexuels. Non, mais c'est pareil partout. Bon, alors si pareil partout, tout se vaut alors.
Non.
Ça existe partout, alors, bon, d'accord.
Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette question, je voulais vous poser un moment dans votre exposé. C'était, est-ce qu'en fin de compte, le but de l'homme, c'est la Avodat Hashem, ou la Avodat Torah, enfin, dit autrement, est-ce que le but, c'est d'être Dvekut Hashem, ou c'est de pratiquer les Mitzvot? Et peut-être dit autrement, c'est, est-ce qu'en fin de compte, c'était pas... Je sais pas comment on peut dire, plus facile ou mieux, ou je sais pas, d'être dans le modèle d'Abraham, c'est-à-dire qu'il marchait devant Hachem, et donc là il voyait selon la nature et il faisait ce qu'il ressentait, et là ça marchait, c'est une certaine preuve d'authenticité, alors que maintenant on est régi par la halakha. Est-ce que cette halakha-là ne peut pas venir un peu contrebalancer une certaine authenticité? Est-ce qu'il nous semblerait juste?
Mais c'est pas par rapport à Abraham et l'image que tu crées d'Abraham, là, par rapport à la culture.
Non, mais par rapport à la côté.
Par rapport à la question que tu as posée, alors c'est quoi le but? Est-ce que c'est la Dvekut ou bien est-ce que c'est les mitzvot? Eh bien, la réponse classique à l'eau de rose dit mais c'est la même chose! C'est la même chose! Les mitzvot, c'est la Dvekut, c'est la mitzvot. Et je crois que un des enjeux de certains textes donc, qu'on a vu là, que nous avons vu ensemble, nous montre que c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça. On peut faire le mitzvot sans arriver à la dvekut. Est-ce qu'on peut arriver à la dvekut sans la mitzvot? Je ne sais pas, mais tout en est-il, c'est complexe. C'est beaucoup plus complexe. Et ce mot complexité, ça me gêne un peu parce qu'il est très à la mode. Je ne sais pas en français, mais en tout cas en Israël, c'est très très à la mode et ça le... Et ça, comment dirais-je, et ça, et il perd de son poids. Donc, je voudrais qu'on reprenne vraiment le mot avec son poids et son authenticité. Et je voudrais conclure en reprenant ce que vous disiez, Elisabeth, par rapport à l'humilité. Et c'est une conclusion que je n'avais pas pensé, mais vu les débats, la tournure des choses, je voudrais la reprendre. La Gemara raconte dans le Maseret Yoma, le traité qui parle de Yom Kippour, que le jour de Yom Kippour, au Beth Amikdash, lorsque le Kohen Gadol terminait les sacrifices, etc., il lisait également la Torah, ensuite il prenait le Sefer Torah, Et c'est une des attestations de la lecture de la Torah déjà à l'époque de Chazal et pendant le Beth Amikdash. Comme quoi, ce n'est pas uniquement après la destruction du temple qu'il y a des synagogues, etc. Bon, parenthèse. Et le Kohen Gadol nous rapporte donc la Gemara disait ce que nous avons écrit, ce que nous avons lu là, ça fait partie de la loi que Dieu nous a donnée. Mais sachez-le que dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Et je voudrais reprendre cette phrase pour notre conclusion en disant. Nous avons essayé, oui, de faire un petit pas dans la complexité, de comprendre dans ces sources premières de la chassidoute, de voir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau des textes, plus que ce que nous voyons de l'extérieur. Mais n'oublions pas que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, que c'est beaucoup, beaucoup plus entier de ça. Et essayer de sortir des conclusions par rapport à ci ou par rapport à ça de telle façon et d'arriver à des vérités trop faciles, alors là, je me sentirais d'avoir raté le but. Mon but était vraiment donc d'un certain côté, oui, d'apporter un éclairage qui espère avoir été profond, mais en sachant que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça et par rapport à des détails et à d'autres choses. Donc voilà, bon, Hachem, on a le temps encore de continuer. Nous avons 120 ans en face de nous. Il y a du travail à faire.
Merci beaucoup. Thank you.